nous voulons invoquer la bénédiction du Seigneur sur ces moments. Ô notre Dieu, toi que nous pouvons appeler notre Père en Jésus-Christ, nous sommes heureux d'être en ta présence et de savoir que tu nous aimes tous, que tu veux nous bénir tous et que tu veux nous sauver tous. Il y a peut-être parmi nous quelques âmes jeunes ou plus âgées qui n'ont pas encore cette certitude de ton amour, que tu puisses te révéler à eux. C'est tout notre cri, c'est toute notre prière, pour que personne ici, quand tu reviendras sur les nuées du ciel, ne reste sur la terre, mais que tous ensemble, nous fassions ce merveilleux voyage vers les aimables demeures de la maison du Père, où ceux qui t'ont reçu sur la terre sont assurés d'avoir une place dans ton ciel de gloire. Que tu nous inspires et que ces moments passés en ta présence, pour les uns et pour les autres, pour les plus jeunes et les plus âgés, valent mieux que 1000 alliés. Au nom du Père, pour la gloire du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bien, nous allons chanter ce cantique pour commencer, pour qu'on ait, soit tous ensemble un cœur et une âme. C'est le numéro 40, vous avez vos recueils là, et nous allons chanter ce cantique 40, en pensant bien à ce que nous disons. Ça vaudrait peut-être la peine de se lever, hein, pour publier bien haut. Publiez bien haut la bonne nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. Pour vous détracer, un guide fidèle nous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, par tous les portes. Publiez bien haut la grande nouvelle, ô Jésus, un peu dépassé. Ô que vous soyez, c'est vous qui la faire, ô qui l'avez emporté. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous les enfants. Eh bien, mes amis, en ce dimanche matin, 9 juillet 1989, dans ce deuxième camp familial, Mahanaïm, nous allons poursuivre notre thème « Vous serez mes témoins ». Cette parole que Jésus ressuscité a donnée à ses disciples avant de les quitter et de remonter dans la gloire d'où il était venu. Vous savez que c'est dans le chapitre premier des Actes qu'il est question de l'ascension du Seigneur après avoir vécu encore 40 jours avec ses disciples, les rencontrant à différents endroits, en Galilée, puis en Judée aussi. Il les a réunis une dernière fois sur la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, et il leur a dit justement, vous allez attendre à Jérusalem de recevoir cette puissance d'en haut, la promesse du Père, il va vous envoyer son esprit, et alors par son esprit, vous deviendrez mes témoins. Et pendant qu'il leur disait ces choses, tout à coup, ils ont vu ses disciples qui étaient autour de lui, ils ont vu le Seigneur qui s'élevait, sans bruit, hein, pas comme une fusée qui fait beaucoup de bruit quand elle part, mais le Seigneur montait tranquillement et ils le suivaient des yeux. Et qu'est-ce qu'ils ont vu quand ses mains étaient ouvertes et qu'il les bénissait? Qu'est-ce qu'ils pouvaient voir? Les marques des clous, les marques de son amour. Et ils voyaient ce Seigneur qui avait accepté d'être crucifié pour eux, qui s'en allait. Et tout à coup, une nuée l'a reçu et il a disparu à leurs yeux. C'est ainsi que commence le livre des Actes des Apôtres. Alors, les disciples regardaient vers le ciel. Et puis, tout à coup, deux hommes vêtus de blanc, mais ce sont des anges, qui sont à côté d'eux, qui leur disent, mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel? Ce Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel, il reviendra de la même manière. Et alors, eh bien, les disciples ont compris qu'ils avaient une tâche en attendant qu'il revienne. Ils savent maintenant où le Seigneur se trouve, et alors, ils doivent exécuter ses ordres, accomplir la tâche qu'il leur a demandée. Donc, il ne faut pas s'arrêter à regarder tout le temps vers le ciel. Il faut retourner à Jérusalem, comme Jésus leur a dit, et attendre la promesse du Père qui eut lieu le jour de la Pentecôte, 10 jours après l'enlèvement du Seigneur. La promesse du Père, le Saint-Esprit, est descendu et le Seigneur est venu habiter non plus à côté d'eux comme il était pendant tout son ministère, mais il habitait en eux. Et c'est la grande vérité que nous voudrions que les uns et les autres vous saisissiez. Quand on est au Seigneur, on n'a plus un Jésus à côté de nous, mais on a un Jésus en nous. On n'a plus un Jésus qu'on laisse par moment, et puis après qu'on reprend, mais on a le Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. Alors, c'est tous les jours qu'il est en nous, c'est tous les jours que nous pouvons avoir son secours, son aide, et quand Jésus est en nous, c'est lui qui regarde par nos yeux, c'est lui qui écoute par nos oreilles, c'est lui qui parle par nos lèvres, c'est lui qui remplit notre cœur de ses paroles, c'est lui qui se sert de nos mains pour ne pas faire le mal, mais le bien, et c'est lui qui se sert de nos pieds pour que nous puissions, nous aussi, dans ce monde, pendant que nous vivons, aller de lieu en lieu en faisant du bien et non pas du mal, hein, et en apportant cette bonne nouvelle. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles et qui annoncent la paix. Eh bien, c'est ce qu'allaient devenir ces hommes si faibles, qui avaient été à l'école de Jésus, qui avaient tous échoué à leurs examens, puisqu'ils avaient tous abandonné Jésus quand il a été crucifié. Eh bien, le Seigneur les avait repris en main dans sa résurrection, et par le baptême du Saint-Esprit, il en avait fait des hommes nouveaux, où il habitait en eux. Et alors, les disciples ne se disputaient plus comme c'était le cas quand Jésus était avec eux. Ils se disputaient pour savoir lequel serait le plus grand, et ils auraient voulu savoir si Jacques pourrait être à la droite du Seigneur et Jean à la gauche, puis ça mettait de la jalousie chez les autres. Mais maintenant, ils avaient compris que si Jésus était monté au ciel, il était allé leur préparer une place. Et ils savaient que la place que Jésus préparerait pour eux, ce serait la meilleure. Hein. Pour chacun, ce sera la meilleure place. Puis ils ont compris, il n'y aurait qu'une place à sa gauche, il n'y aurait qu'une place à sa droite, mais à ses pieds, il y a toute la place. Hein. Alors, si on reste petit, humble, on a tous une place aux pieds du Seigneur. Comme il est dit dans le Deutéronome au chapitre 33, « Tous les saints se tiennent à tes pieds et reçoivent tes paroles. » Eh bien, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Et nous avons, dans la semaine passée, donc survolé plusieurs de ces chapitres des Actes des Apôtres pour arriver ce matin au chapitre 15. Et ce matin, nous allons le lire. Vous avez vos Bibles, j'espère, hein? Et je vous proposerai que nous fassions cette lecture à haute voix. Quelle est la version que vous avez? La seconde? La plupart? Oui. Alors, si vous avez Louis Segond, vous lisez dans Louis Segond, et puis ceux qui ont le français courant, eh bien, vous ne lirez pas trop fort, hein, pour que ça ne fasse pas d'autres mots, mais c'est quand même le même sens. Hein. Mais puisque la plupart ont le Louis Segond, on va faire cette lecture. Et pour que vous soyez bien pénétrés, que vous commenciez à écouter aussi votre voix, hein. Il faut que vous vous habituiez à entendre votre voix, parce que vous pourrez plus facilement après vous exprimer. Hein. Alors, vous lisez, et puis avec moi, et puis alors on voit le texte, et puis on l'entend. Alors, ça entre par nos oreilles, et puis ça entre aussi par nos yeux. Chapitre 15. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent, montrer à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent à travers la Phénicie, la Samarie, racontant arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église les amis. Alors, les apôtres. Se leva. Et Dieu qui connaît les cœurs par la grâce, Seigneur. Après cela, je reviendrai et je reviendrai. Alors, ayant appris. À Dieu. Eux donc, ayant pris, quelques jours. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir accepté de faire cette lecture ensemble. Nous avons entendu la parole de Dieu et comme Jésus le disait, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. C'est-à-dire que nous allons maintenant nous laisser enseigner et peut-être corriger dans nos pensées sur certaines manières de faire que nous avons et qui n'est pas conforme à ce qui se faisait dans l'Église primitive sous l'inspiration du Saint-Esprit. Comme je vous l'ai dit, on pourrait intituler ce chapitre « Conférence de Jérusalem » ou bien simplement « Synode ». C'est la grande rencontre de tous les responsables de l'Église de Jérusalem, qui est l'Église primitive, la première église où il y a eu la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais comme nous avons pu le voir, et si vous lisez les autres chapitres des Actes, ce n'est pas seulement les 120 dans la chambre haute qui ont reçu le Saint-Esprit, mais quand ils ont pu louer le Seigneur dans toutes les langues des peuples qui étaient venus pour célébrer la Pâque à Jérusalem, et que les foules ont entendu ce prodige, ce miracle, elles disaient, mais comment est-ce que ces gens qui n'ont pas appris ces langues peuvent-ils parler des choses magnifiques de Dieu? Nous les entendons dans notre propre langue, il n'y avait pas besoin d'interprète, c'était des langues qui leur parlaient de la personne de Jésus qui était retourné dans la gloire et qui reviendrait. Alors nous avons lu au chapitre 2 l'explication que Pierre a donnée de cet événement de la Pentecôte, de la descente du Saint-Esprit, qui avait baptisé en un seul corps tous ses disciples qui étaient réunis. Ils étaient maintenant ensemble dans un même lieu, et pourquoi est-ce qu'ils pouvaient s'aimer et se tenir ensemble? C'est parce que l'objet de leur affection était où? Ils l'avaient vu monter où? Dans le ciel. Hein? Alors, quand l'objet de nos affections est dans le ciel, on s'entend bien sur la terre. Hein? On ne cherche pas sa place. On n'essaye pas de prendre la place d'un autre. Notre place, elle est auprès du Seigneur. Et cela nous suffit. L'objet de nos affections est dans le ciel. Mais, peu de temps après, eh bien, un homme nommé Philippe est allé lui aussi en Samarie et il a annoncé l'évangile, cette bonne nouvelle, selon l'ordre du Seigneur qui avait dit qu'il serait témoin d'abord à Jérusalem. Alors ils ont annoncé aux Juifs, Pierre a expliqué ce qui se passait aux Juifs, mais ensuite Philippe est allé apporter l'évangile aux Samaritains qui étaient des demi-païens, qui n'avaient pas une religion pure. Et puis là, il y a eu des conversions, les gens ont été sauvés. Les apôtres de Jérusalem sont venus, ils ont prié pour eux, et eux aussi ont reçu le Saint-Esprit. De sorte qu'il n'y avait pas seulement des Juifs qui étaient sauvés, mais il y avait aussi des Samaritains. L'évangile a pénétré en Samarie, et puis, non content de cela, le Seigneur a continué son œuvre, et l'évangile est parvenu aux païens qui se trouvaient où? À Césarée. Hein? Dans l'histoire de Corneille que nous pouvons étudier au chapitre 10. Les Romains, les païens, ont eux aussi écouté l'évangile. Ils étaient là écoutant l'apôtre Pierre qui s'était déplacé parce qu'il avait eu une vision. Le Seigneur lui avait dit qu'il devait aller à Césarée, il a obéi à la vision du Seigneur sans s'occuper de ce que ses frères pourraient penser de lui, parce que pour un juif, c'était interdit d'aller manger chez un païen. Il ne fallait pas avoir de contact avec un païen. Alors, Pierre était allé parce que Dieu l'avait convaincu qu'on ne doit pas tenir un homme comme impur et souillé, et que nous devons les aimer. Et pendant qu'il leur parlait de Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Ces païens avaient un cœur ouvert et ayant reçu Jésus par la foi, tout d'un coup, Pierre a réalisé que le Saint-Esprit était tombé sur eux et que eux aussi parlaient les langues comme eux avaient parlé à Jérusalem. Le même phénomène s'était produit pour les païens à Césarée que celui qui s'était produit chez les Juifs à Jérusalem, chez les Juifs qui avaient donné leur cœur au Seigneur. De sorte que maintenant, on savait que le salut, on l'a chanté, le salut, il est pour tous. Il n'était pas seulement pour les Juifs. Jésus est venu d'abord chez les siens, les Juifs. Mais vous le savez, les siens ne l'ont pas reçu. Et il est dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a été donné le droit de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté du sang et de la chair, mais de la volonté de Dieu. Alors voilà, le salut est pour tous. Et quand Étienne a dû passer par la mort, étant devenu un témoin martyr, il avait entendu, il avait vu des choses, et il en témoignait avec puissance, avec la puissance du Saint-Esprit, mais ça a tellement irrité les Juifs qu'on l'a saisi et qu'on l'a lapidé. Et nous avons vu cette histoire. Et on a exclu, on a pourchassé les autres croyants au Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû se sauver pour leur vie et ils sont allés jusqu'à Antioche, cette ville de Syrie, cette ville païenne que nous trouvons ici, Antioche, là, de Jérusalem. Ils sont allés à Antioche et là, ils ont annoncé la bonne nouvelle du Seigneur. Et il y a des Juifs et aussi des païens qui se sont tournés vers le Seigneur et ils sont devenus une église, une communauté, remplie aussi du Saint-Esprit. Et c'est là, dans cette ville d'Antioche, avons-nous lu, que pour la première fois, on a nommé les disciples des chrétiens. Hein? Voilà, on les a nommés des chrétiens. Alors, il y avait là Saul de Tarse qui s'était converti, qui était devenu l'apôtre Paul, et puis Barnabas, qui enseignait à Antioche. Il y avait toujours l'église de Jérusalem qui
était dirigé au fond par les apôtres, les douze apôtres, et puis il y avait maintenant cette église d'Antioche parmi les païens. Et c'est là, à Antioche, que le Saint-Esprit avait mis à part Paul, Saul de Tarse, et Barnabas pour annoncer dans le monde païen ce merveilleux évangile. Mais voilà que, quand il y a une œuvre qui se fait dans une ville, ceux de Jérusalem, qui avaient été les premiers à recevoir la bénédiction, ont voulu mettre un peu le nez dans les affaires de cette église d'Antioche. Et c'est ce que nous voyons dans ce chapitre 15. Quelques hommes venus d'où ? De Judée. Donc, la Judée avait quoi comme capitale ? Jérusalem. Vous pouvez relire maintenant, n'est-ce pas ? Parce que ce que nous avons fait en lisant ensemble, nous avons survolé le chapitre 15, hein, comme en avion. On était à une haute altitude, mais on a vu certaines choses depuis cette altitude. Alors maintenant, on va se poser à certains endroits, on ne peut pas s'arrêter partout, mais on va se poser à certains endroits pour examiner d'un peu plus près ce qui est dit. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères, donc d'Antioche, en disant, c'était donc des convertis, mais qui n'avaient pas été circoncis. Ils disaient, si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors, ces gens qui avaient cru au Seigneur Jésus, qui avaient reçu le salut, ils le pensaient, puis des personnes de Jérusalem viennent leur dire, mais c'est pas vrai, vous n'êtes pas vraiment sauvés parce que vous n'êtes pas circoncis. Alors il nous faut savoir qu'est-ce que c'était que cette circoncision. La circoncision, vous avez son origine dans le chapitre 17 de la Genèse. Il faudrait retourner dans l'Ancien Testament. Et au chapitre 17 de la Genèse, nous voyons Abraham. Hein, vous connaissez Abraham. Il y a des petits aussi qui aiment bien chanter « Père Abraham avait beaucoup de fils hein. ». Père Abraham avait beaucoup de fils. Eh bien voilà, un jour, Père Abraham a vu le Seigneur qui lui a dit « Je fais une alliance avec toi et avec tous tes fils. De sorte que ce que je te demande, c'est que tu sois circoncis et que tu circoncises aussi ton fils et tous les descendants d'Abraham devaient être circoncis. Ils devaient porter le signe de l'alliance. Alors qu'est-ce que c'est que la circoncision ? Est-ce qu'on ose en parler ici dans une assemblée comme celle-là ? Et pourquoi pas, puisque c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a rien de malsain. Tout est saint, il n'y a pas de tabou, mais tout est saint. Et il nous faut voir les choses d'une façon sainte. Eh bien, nous savons que les garçons, ils ont sur le gland de leur verge, de leur petite verge, ils ont une petite peau qui recouvre ce gland. Et alors, ce que Dieu demandait à Abraham, il n'y a pas besoin de discuter avec Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, qu'on enlève cette petite peau le huitième jour après la naissance, et ce serait un signe qu'ils appartenaient au peuple d'Israël. On saurait qu'ils appartenaient au peuple d'Israël. Mais bien sûr, c'était quelque chose de caché, le monde ne voyait pas cela. Mais un juif, on savait qu'il était circoncis. Et pendant la guerre, cette dernière guerre, les Allemands qui tuaient les juifs, qui prenaient les juifs pour savoir s'ils étaient réellement juifs, ils avaient qu'à faire descendre le pantalon du gars, et puis s'il était circoncis, on savait que c'était un juif. Hein. Mais pas seulement ça, mais les Ismaélites, et puis enfin tous les descendants d'Abraham, aujourd'hui encore, sont aussi circoncis. Il n'y a pas seulement les juifs, et il y a aussi les musulmans. Sont des peuples qui sont circoncis. C'est une mesure d'hygiène, parce que des fois, bien, il y a des démangeaisons, là, il y a certaines sécrétions qui gênent, et puis, alors, on voit le petit garçon qui se gratte, etc. C'est pour cela que, bien souvent, maintenant, chez les chrétiens, eh bien, on circoncis, c'est pas une obligation, mais on circoncis l'enfant quand il est très jeune, et ça évite bien des choses. Mais ce n'est pas une loi, hein. Mais c'était comme cela, une marque dans la chair. Mais ça, c'était pour le peuple d'Israël. Mais malgré cette marque dans la chair,
qui montrait que le peuple appartenait au Seigneur, eh bien, le cœur des Juifs n'a pas été au Seigneur. Alors, ils avaient la marque, ça leur suffisait, je suis circoncis. Hein, et ils se glorifiaient d'être circoncis. Mais ce que les prophètes ont commencé de dire, ce n'est pas simplement la circoncision dans la chair qui compte. Qu'est-ce qu'il faut ? La circoncision du cœur, vous comprenez, ou des oreilles aussi. La circoncision des lèvres, c'est cela qu'il nous faut, n'est-ce pas ? Être purifié, appartenir au Seigneur intérieurement de cœur et non pas seulement par une forme. Alors, tous ces Juifs qui avaient cru au Seigneur, mais qui étaient circoncis, ils se jugeaient supérieurs et ils auraient voulu devenir d'abord des Juifs, puis après vous pourrez être des chrétiens. Il faut d'abord que vous soyez circoncis, puis après vous serez réellement sauvés. Alors, est-ce qu'on pouvait imposer cela à des païens qui étaient des adultes, qui n'étaient pas circoncis, qui croyaient au Seigneur Jésus, et leur dire tout de suite, si vous n'êtes pas circoncis, vous n'êtes pas sauvé. Et il y en a qui redoutaient quand même cette opération. Quand l'enfant est petit, ça va encore. Hein. Mais mettre cette condition à des adultes, c'était fermer la porte de la grâce à plusieurs. Ils, sous la loi, étaient venus semer du trouble à Antioche, qui était une assemblée essentiellement composée de païens. Alors, verset 2, vous comprenez, Paul et Barnabas eurent avec ces docteurs de Jérusalem un débat et une vive discussion. Et les frères, alors, ça, on a tellement discuté, parce que quand on commence de discuter au point de vue doctrinal, on risque de se, quoi, fâcher et de se diviser. Ça risque de faire une division. Pour une question qui ne paraissait pas essentielle à Paul et à Barnabas. Paul et Barnabas étaient circoncis, comprenez-vous, mais ils ne voulaient pas imposer la circoncision aux païens qui avaient cru. Ils étaient sages. Mais comme les autres de Jérusalem disaient, c'est nous qui sommes dans la vérité, c'est nous qui sommes dans la pure doctrine, et vous ne serez pas sauvés réellement si vous n'avez pas cette opération. Alors, et ils ont décidé, on va aller à Jérusalem, à la première église où il y a les apôtres, Pierre, où il y a Jacques, Jean, et les colonnes de l'église primitive, et où il y a les anciens, nous allons traiter de cette question. Et c'est ça qui a provoqué ce qu'on appelle la conférence de Jérusalem. Et maintenant vous comprenez quel en fut l'objet. Eh bien, est-ce que des païens pouvaient être sauvés sans être circoncis? Voilà l'objet de la conférence. On devait trancher la question. Est-ce qu'on peut être sauvé en étant païen sans être circoncis? Comme si on vous disait, est-ce qu'on peut être sauvé sans avoir été baptisé, hein? Donnez-moi l'exemple d'un homme que vous savez être sauvé qui n'a pas été baptisé. Le larron sur la croix, le brigand sur la croix, hein. Eh bien, il est mort sans avoir été baptisé. Vous voyez pas Pierre qui court avec un goupillon pour lui l'asperger de 3-4 gouttes d'eau bénite? Non, il n'y avait pas le temps. Alors, est-ce qu'il est sauvé ou est-ce qu'il n'est pas sauvé, le brigand? Donc, c'est pas le baptême qui sauve. Le baptême est un signe de l'alliance, comme la circoncision ne sauvait pas. La circoncision était un signe dans la chair qu'on appartenait au peuple d'Israël. Et le baptême, c'est aussi un signe où on confesse que comme Jésus est mort, nous aussi nous sommes morts, qu'on a été ensevelis avec lui. C'est pourquoi on fait le baptême par immersion comme on le faisait dans l'église primitive. Et puis on en ressort image d'une résurrection, d'une vie nouvelle que l'on veut vivre avec le Seigneur. Alors, verset 3, vous voyez, on envoie donc Paul et Barnabas à Jérusalem, et puis quelques personnes, donc, de l'assemblée d'Antioche vont les accompagner. Alors, au verset 3, après avoir été accompagné par l'Église, donc toute l'Église est d'accord que ces hommes allent là-bas, eh bien, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, la Samarie. Et qu'est-ce qu'il racontait? La conversion des païens. Ils avaient vu ces païens se convertir, ces anciens idolâtres se convertissaient. Alors ils racontaient dans les églises la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Ils avaient une mission, mais vous voyez, en même temps qu'ils faisaient un voyage, ils parlaient de quoi ? Du Seigneur, de l'œuvre du Seigneur. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'Église ? C'est seulement les apôtres et les anciens ? Attention, hein ! L'Église est composée de tous les fidèles, de tous les croyants. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Non, et vous aurez toujours ça, tout ce que Dieu avait fait avec eux. C'était des hommes qui étaient maintenant dans la main de Dieu, et qui est-ce qui agissait ? C'était Dieu. C'est Dieu qui agissait avec eux. Ce qui nous a fait dire si souvent dans nos prédications, servir le Seigneur, ce n'est pas faire nous-mêmes des choses pour lui, c'est le laisser faire. En nous, toute sa volonté. C'est lui qui nous emploie. C'est ça, être au service du Seigneur. Et j'emploie souvent l'exemple de Marie qui a dit à l'ange « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Je suis la servante du Seigneur. Elle n'a pas dit « Je veux faire. » Qu'il me soit fait selon ta parole. Il lui semblait que c'était une impossibilité. Ce qui lui avait été demandé, eh bien, je me laisse faire. Et c'est là l'exemple de Marie pour nous. Donc, vous voyez que c'est toujours la même pensée. C'est Dieu qui travaille avec les disciples. Alors, verset 5, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant, donc à Jérusalem, qu'il fallait circoncire les païens et exiger qu'ils observent la loi de Moïse. Vous voyez qu'à Jérusalem, il y avait déjà tout un parti qui attendait, et quand Paul et Barnabas ont raconté la conversion des païens, ils ont dit « Oui, mais il faut que les païens qui ont cru soient circoncis. » Donc, d'Antioche, on savait déjà à Jérusalem qu'il y avait des troubles, et immédiatement, alors, on en parle. Alors, verset 6, que vont faire les apôtres ? Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parce que ça risquait d'amener une division. Division entre l'église d'Antioche et celle de Jérusalem. Et une grande discussion s'étant engagée, alors qui est-ce qui se lève ? Pierre. Alors, si vous lisez les autres chapitres, vous pouvez voir Pierre se lever plusieurs fois. Dans le premier chapitre, il s'est levé pour parler de la succession de qui ? De Judas, hein. Et puis ensuite il se lève pour expliquer le phénomène de la Pentecôte à tous ces peuples qui étaient réunis à Jérusalem, puis ensuite il se lève dans le Sanhédrin pour expliquer comment l'impotent de la belle porte a été guéri. Alors comment, qu'est-ce qu'il leur dit ? Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous. Il l'avait choisi, hein. Il lui avait dit « paix mes agneaux, paix mes brebis », malgré que Pierre l'avait renié, mais il s'était repenti, il avait pleuré amèrement sur sa faute, et Dieu lui avait confié le troupeau. « Afin que par ma bouche, Dieu m'a choisi, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Alors là, il rappelle ce qui s'est passé chez Corneille, que Dieu l'avait choisi pour aller chez Corneille, un païen, à Césarée, pour lui annoncer la parole. C'était à qui personne ne pouvait contester que Pierre avait fait cela. Et Dieu, qui connaît les cœurs, verset 8, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, hein. Le Saint-Esprit était tombé sur les gens de Césarée réunis chez Corneille, comme il était tombé sur les Juifs à Jérusalem. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par quoi ? Par la foi. C'est la foi qui purifie notre cœur. La foi, c'est croire ce que Dieu nous dit. Il n'a fait aucune différence. Hein. Est-ce qu'ils étaient circoncis, les gens qui écoutait Pierre ? Non, c'était des païens, c'était des Romains. Ils n'étaient pas circoncis. Et pourtant, est-ce que le Saint-Esprit était tombé sur eux ? Oui. Donc le Saint-Esprit ne tombe pas seulement sur des circoncis. C'est pas parce que on a enlevé ces petites peaux de leurs prépuces qui sont au Seigneur. C'est pas cela. Ça c'était qu'un rite, comprenez-vous. Alors, c'est extérieur tout cela. Et puis Jésus était venu. Et maintenant, on faisait partie du peuple de Dieu d'une autre façon. On en faisait partie par la foi. Et le signe qu'on avait réellement la foi, eh bien, c'était le baptême. Ceux qui étaient baptisés, ils confessaient qu'à leur vie passée, ils avaient renoncé et qu'ils commençaient une vie nouvelle, qu'ils acceptaient d'être ensevelis avec Christ et ressuscités en lui. Et verset 11, la conclusion de Pierre, de son discours, de son argumentation. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Vous le croyez aussi? Donc, c'est clair pour vous, hein? Cette difficulté qui est arrivée dans l'Église primitive, eh bien, vous commencez à voir clair. Et on est sauvés de la même manière que les autres, hein? Verset 12. Toute l'assemblée garda le silence. Qui ne dit rien, consent, dit un proverbe. Hein. Ils ont gardé le silence et l'on écouta. Alors, maintenant que Pierre a terminé, c'est Paul et Barnabas qui prennent la parole. On peut maintenant les écouter tandis qu'avant on discutait. Et alors, que va faire Paul et Barnabas? On écouta Barnabas et Saul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Ce n'est pas eux qui avaient fait quelque chose pour Dieu, c'est Dieu qui avait fait quelque chose par eux. Notez bien cela, n'est-ce pas? Il faut qu'on soit pénétré de cela, pour que dans notre vie quotidienne, on ne s'attribue jamais quelque chose. Vous faites quelque chose de bien, merci Seigneur, tu l'as fait, hein? Et vous donnez tout de suite la gloire au Seigneur. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui avais ça en moi. Moi, je n'étais pas capable. J'aurais fait mal. Mais toi, tu t'es servi de ma main, tu t'es servi de mes pieds, tu t'es servi de mes lèvres pour donner une parole. Mais nous n'avons jamais à nous attribuer quelque chose. Nous sommes les instruments du Seigneur. Et alors, quand on est devenu instrument du Seigneur, c'est Dieu qui s'occupe de nous. C'est Dieu qui nous prend à sa charge. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pas une communauté, une église, une association qui nous prend à sa charge et puis on doit dépendre d'elle. On dépend du Seigneur, bien sûr qu'on est heureux d'avoir la communauté avec nous, derrière nous, qui nous soutient, qui prie pour nous. Mais au fond, c'est une relation personnelle avec le Seigneur. Et s'il nous a appelés à le servir, il nous donne aussi ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de notre ministère. Alors voilà le beau témoignage de Paul dans cette église de Jérusalem. Verset 13. Alors il y a maintenant un autre qui se lève après Paul et Barnabas, qui s'appelle Jacques. C'est pas le Jacques qui a eu la tête coupée, parce qu'il n'est pas là, hein, c'est pas le frère de Jean. Alors c'est quel Jacques? C'est le frère du Seigneur. Et figurez-vous que c'est beau ça. Hein? Parce que les frères du Seigneur, ils ne croyaient pas en lui. Lisez le chapitre 7 de Jean. Les frères du Seigneur ne croyaient pas en lui. Mais après, on les voit au moment de la Pentecôte, après l'enlèvement, ils sont avec Marie, ensemble, dans le cénacle, où ils attendent la promesse du Père. Et il est dit qu'il y avait les frères du Seigneur. Et voilà que Jacques, le frère du Seigneur, a été saisi par l'Esprit, et c'est lui qui se lève maintenant à Jérusalem et qui leur dit, verset 14, « Homme frère, écoutez-moi. » Ça, c'est frappant, hein, un frère du Seigneur. « Simon a raconté, Simon c'est qui? C'est Pierre, hein? Comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom. » Donc, on avait admis que Pierre avait eu raison d'aller à Césarée, d'y prêcher aux païens, et des hommes païens s'étaient convertis, ils étaient choisis parmi les nations pour porter le nom du Seigneur. C'est ça l'Église, hein? C'est un peuple qui porte le nom du Seigneur. Nous sommes des chrétiens. Mais il faut être authentiquement chrétien, pas seulement des baptisés, il faut avoir la foi au Seigneur Jésus. un peuple qui porte son nom, qui porte le nom du Seigneur. Et avec cela s'accordent, verset 15, les paroles des prophètes. Vous voyez, Jacques prend les paroles de l'Ancien Testament, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai. » Qui est-ce qui reviendra? Jésus, n'est-ce pas? Après qu'il a choisi un peuple qui porte son nom, il est dit qu'il reviendrait et je relèverai de sa chute la tente de David. Il y aura donc salut pour quel peuple? Le peuple qui a crucifié Jésus, le peuple d'Israël qui est encore dans l'incrédulité, eh bien, il est dit qu'un jour, le Seigneur se lèvera et puis que les Juifs aussi se tourneront vers le Seigneur. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Quand Dieu sera intervenu en Israël pour le délivrer, alors toutes les nations sur lesquelles mon nom sera invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, toutes les nations pourront se convertir au Seigneur par le témoignage des Juifs nouvellement sauvés à Jérusalem et pendant le règne. Et c'est le Seigneur qui parle, à la fin du verset 17, le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toutes éternité. De sorte que pour Dieu, il n'y a pas de secret. Hein. Il sait toutes ces choses de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis, dit Jacques, que l'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais que l'on écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Donc, s'ils ont quitté l'idolâtrie, il ne faut pas qu'ils y retournent, n'est-ce pas? Il faut qu'ils vivent dans la séparation, qu'ils n'aillent plus dans les cultes idolâtres. Et de l'impudicité, c'est-à-dire on avait des relations sexuelles en dehors du mariage. Hein? Alors ça, il est dit, eh bien, il faut enseigner qu'on ne doit pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Je sais qu'aujourd'hui, c'est transgressé sur toute la ligne, cela. Hein. Plus vous avez de partenaires, mieux c'est. Même, on vous encourage à ça. C'est une abomination. Eh bien, chers amis, la parole de Dieu est à autorité sur notre cœur, et nous y croyons. Et nous voulons la respecter. Il y a une séparation de ce monde de païens, d'idolâtres. Quand je dis païens, je ne parle pas des catholiques, je ne parle pas des gens qui croient au Seigneur Jésus, qui sont d'une autre église. Mais je dis ceux qui ont tout rejeté, qui ne croient ni en Dieu ni en diable, qui ne croient qu'en eux, qu'en leur sexe, qu'en leur argent, qu'en leur drogue et tout le reste. Hein. C'est de l'idolâtrie et qui disent toujours qu'ils adorent ceci, qu'ils adorent cela, comme s'ils étaient des païens. On adore un seul Dieu. Et vous ne devez plus parler toujours que vous adorez cela, quand vous aimez quelque chose. Vous pouvez aimer quelque chose, vous pouvez apprécier quelque chose, mais on n'adore pas quelque chose. On adore le Seigneur. Et cela, il nous faut être conséquent, changer aussi nos habitudes de parler, parce qu'on a de très mauvaises habitudes. La parole de Dieu nous enseigne ces choses. Donc, être séparé des idoles, de l'impudicité et des animaux étouffés et du sang. Alors, on se dit, mais alors pourquoi cette exception? Pour le boudin, par exemple. Alors qu'il est dit dans d'autres passages, vous pouvez manger de tout ce qu'on vend à la boucherie. Alors, le boudin, le sang, on le vend aussi à la boucherie. Bien, nous pensons que c'est en tout cas momentané cette défense, parce que c'était, il ne fallait pas scandaliser les âmes. Et qui est-ce qui, la question du sang, pourquoi est-ce qu'ils ont demandé qu'on s'abstienne du sang là? Est-ce que c'était la loi de Moïse qui avait dit cela d'abord? Non. C'est au temps de Noé, quand Dieu a donné la viande comme nourriture à ce peuple qui travaillait dur, qui n'était plus dans le jardin d'Éden, où en Éden, quel était le régime? Végétarien, parce qu'il n'y avait pas des gros travaux à faire. Mais ensuite, qui est-ce qui a introduit le régime carné? Les mangeurs de cadavres? Non, c'est Dieu
qui a ajouté la viande parce que c'était nécessaire aux travaux si durs que l'homme faisait, il travaillait à la sueur de son visage, alors Dieu lui donne la possibilité de manger de la viande. Mais il lui dit sans le sang. Parce que le sang, eh bien, c'est ce qui appartient à Dieu. C'est le symbole de la vie. Le sang, c'est la vie. Alors on respectait cela et on ne mangeait pas le sang. C'était donc avant la loi de Moïse. Et c'est un principe qui était maintenu. Mais tout cela, eh bien, sont des éléments, des institutions qui peuvent changer. Et je n'accuserai pas quelqu'un qui pense qu'il peut manger du boudin. C'est son affaire entre lui et le Seigneur. C'est son affaire. Parce qu'il y a d'autres versets qui montrent qu'aucun aliment en soi n'est impur. Quoique on est toujours bien quand on s'en tient à la parole, parce qu'on sait bien que le sang véhicule toute espèce de microbes aussi, hein, puisqu'on fait des analyses de sang, qu'est-ce qu'il y a dans le sang, alors ça vaut mieux. Verset 22-21. Car depuis des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Eh bien, si vous voulez rester juif, eh bien, vous n'avez qu'à rester dans vos synagogues. Dans ces synagogues, on vous lit la parole tous les jours de sabbat, n'est-ce pas? Voilà. Et ceux qui veulent rester juifs, bien, qu'ils restent juifs, mais qu'ils ne viennent pas empoisonner l'Église par tous leurs commandements de « tu dois » et « tu ne dois pas », parce que c'est Jésus qui est venu. Et Jésus est la fin de la loi pour tout. Personne qui croit. Il faudra avoir du temps pour développer tout cela, mais on y reviendra. Verset 22, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. On n'a pas envoyé n'importe qui, mais des gens qui avaient un bon témoignage. Et ils les chargèrent de cette lettre. Et alors, je passe sur les termes de cette lettre, vous la relirez, mais on voit qu'ils ont écrit avec beaucoup de sagesse, et ils disent que c'est le Saint-Esprit et eux et qui pensent ainsi, et ils recommandent qu'on écoute Silas et Jude, car c'est le Saint-Esprit, verset 28, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. C'est peut-être nécessaire pour ne pas scandaliser quelqu'un. Si tu vas, toi qui as la connaissance, dans un temple d'idole, puis que tu manges, eh bien tu vas peut-être scandaliser un fait qui dit, mais comment ce chrétien-là, il fait encore ça? Et puis, lui, on risque d'être une pierre d'achoppement. Alors, si nous péchons contre notre frère, eh bien, vaut mieux s'abstenir. J'ai, moi, la liberté de boire un verre de vin à table, hein, si le Seigneur me le donne. Mais si je suis avec un ancien alcoolique, vous croyez que je vais boire mon verre de vin? Non, j'ai bien mieux boire mon verre d'eau avec lui, parce que en lui faisant goûter à ce qu'il a fait tomber autrefois dans le péché, qu'est-ce que je risque de faire? De l'entraîner de nouveau à boire. Alors, il y a des choses qu'on s'impose, non pas comme une loi, mais c'est nécessaire dans certaines situations, c'est se faire tout à tous. J'ai cette liberté, mais il y a des choses que je ne fais pas pour ne pas scandaliser mes frères. Vous voyez, c'est cela qu'il nous faut retenir. Verset 29, savoir, donc de quoi s'abstenir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, chose contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Ben, si vous voulez vous trouver bien, eh bien, suivez ce conseil. Verset 30. Eux donc, ayant pris congé de l'église de Jérusalem, ils allèrent à Antioche et ils remirent la lettre à la multitude assemblée. On les attendait. Et après l'avoir lue, les frères furent pas attristés, réjouis de cette réponse et de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas,
qui étaient eux-mêmes des prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Puis au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés, c'est-à-dire retourner où ? À Jérusalem. Mais voilà que Silas, lui, il trouve bon de rester où ? À Antioche. Il a été conduit par le Seigneur. Et Paul et Barnabas, eux, demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Voilà ce que nous devons annoncer, c'est pas autre chose, c'est pas un message sectaire, c'est un message qui s'adresse à tous les hommes, il n'y a qu'une bonne nouvelle du Seigneur. Et c'est toujours le Seigneur qui sera au centre. Mais voilà, verset 36, on apprend une chose assez triste, c'est que quelques jours après, il y a un différend qui surgit en deux hommes qui s'étaient aimés comme cela, hein, qui travaillaient ensemble comme cela. Et puis tout à coup, ils se séparent. Il y a un différend. Et pourquoi ce différend? Nous reprendrons cela ce soir. C'est une des difficultés qui a été manifesté dans l'Église primitive, un différend entre deux hommes de Dieu, Barnabas et Paul, au sujet d'un troisième, Marc, hein, qui était le parent, le cousin ou le neveu de Barnabas. Et ce neveu de Barnabas, fils de Marie de Jérusalem, avait suivi Paul et Barnabas dans leur premier voyage, mais devant les difficultés des apôtres, Paul s'était fait lapider, le pauvre Jean avait pensait qu'il était mieux dans les jupes de maman. Et il était retourné à Jérusalem, chez Marie. Et alors, Barnabas, qui était son oncle ou son neveu, ou son oncle, eh bien, lui, il avait pitié de lui, comme il avait eu pitié de Saul de Tarse, c'était un homme plein de confiance, et il trouvait qu'on pouvait le reprendre quand même, puisque Jean avait un peu mouri, Jean surnommé Marc, qui voulait revenir. Eh bien, Barnabas disait, on peut le prendre. Puis Paul disait, non, quelqu'un qui nous a abandonné, qui nous a laissé, c'est trop dangereux, on ne le prend pas. Hein. Et alors, il y a eu une dispute entre eux. Et alors, Barnabas est parti avec Jean surnommé Marc, son neveu. Il est allé à Chypre. Pourquoi Chypre? Il était cypriote, lui. Barnabas était cypriote. Alors, il y avait quand même certains apprêts d'aller plutôt à Chypre, dans sa patrie, avec Barnabas, avec Jean-Marc, qui était son neveu. Puis Paul, lui, qui était très strict, hein, il est parti avec Silas, ce Silas qui était resté. Il l'a pris pour être son compagnon d'œuvre. De sorte que nous verrons maintenant, dans le chapitre 16, Paul et Silas. S'il y avait des petits-enfants ici, qui ont entendu l'histoire du personnage mystérieux, il pourrait comprendre quelque chose. Hein. On racontera cette histoire ce soir aux enfants. Alors, nous nous arrêtons là, et ce soir, on prendra le commencement du deuxième voyage de l'apôtre Paul, et qui est sur cette carte. Maintenant, nous allons partir pour la deuxième partie, qui est le culte d'adoration. Vous prenez vos cantiques, parce qu'on va aller à la chapelle aussi en silence, tranquillement. Vous prenez vos sièges avec vous, ce sera peut-être plus favorable d'être bien assis. Et dans ce culte, c'est vous qui avez la possibilité. Mais vous m'attendez, hein, vous intégrez tranquillement.